Rebonjour à tout le monde. Merci infiniment pour la confiance accordée pour nous écouter, et comment l'épouse veut dire apporter la parole et partager ces temps de communion avec vous. Je peux dire que je ne connais à peu près personne, sauf malheureusement Olivia, que j'avais carrément oublié, je m'en excuse beaucoup. Mais pour te rassurer, ma femme avec qui je me suis marié, qui s'appelle Marine, il y a 2 ans, la première fois que je l'ai recroisée, les mots qui me sont sortis de la bouche, c'est « j'avais oublié que tu existais ». Parce qu'en fait, je l'avais déjà vu quelques années auparavant. Donc voilà, c'est un peu dans ma nature d'oublier, donc je m'en excuse. Mais souvent, quand on demande, quand on se présente au fait auprès de quelqu'un, on lui pose souvent la question « qui est-ce que tu es ?» Et puis la prochaine question qui nous vient, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Souvent, quand on veut se présenter, on se dit « tiens, voilà, je me définis par mon identité, puis par mon métier. » Et puis en fonction, si tu as un métier, on va dire, un peu prestigieux, ou qui est plutôt bien vu socialement, ou qui ramène de l'argent, par exemple, tu seras plutôt enclin à bien en parler. Je suis architecte, je suis avocat, je suis médecin. Et tu le dis avec une certaine prestance, parce que tu sais qu'auprès des gens, ça va aussi mettre un certain niveau. En disant, ah oui, quand même, c'est un ministre, c'est un juge, etc. En revanche, s'il s'avère que tu as un métier, on va dire, qui est plus anodin, je ne dis pas moins utile, hein. Je ne sais pas, imaginons que tu es éboueur, caissier, ouvrier du bâtiment, tu vas en parler, mais rapidement. Parce que les gens savent que parfois, c'est associé aussi à un salaire qui n'est pas si élevé que ça, et il n'y a pas une forme de prestige lié à ce métier-là. C'est peut-être, on va dire, un héritage de chez les Grecs, où ils mettaient beaucoup en avant, vous savez, les métiers qui sont un peu plus intellectuels. Alors que les travaux manuels, c'était des trucs pour les esclaves. Donc, c'est pas trop attaché. Et je pense que c'est profondément ancré dans notre société aujourd'hui, le lien entre le métier et la valeur de la personne. Mais en réalité, je pense que la perspective de Dieu est différente. Alors, il y a des personnes qui ont des métiers. Il y en a qui sont peut-être au chômage, à la retraite, mère au foyer. Je ne pense pas que le regard de Dieu sur ces personnes-là, c'est de dire « tu as moins de valeur, ta place dans la société, soit elle est déjà passée, ou soit elle ne sera jamais meilleure. » Et parfois, on peut nourrir du coup une forme d'ambition en disant « ah, si seulement j'avais été ça, je serais probablement meilleur. » Mais vraiment, je ne pense pas que les métiers qui soient plus rémunérateurs méritent plus d'honneur. On l'a vu pendant le Covid. C'est même ceux qui étaient le plus utiles qui étaient restés, alors que certains ont totalement disparu. Et c'est la perspective que je voudrais nous laisser aujourd'hui avec ce psaume 127 que je vais vous inviter à ouvrir pour voir qu'est-ce que Dieu, comment voit Dieu voit notre, la perspective de notre travail et comment est-ce qu'il a une vision qui est différente de notre société actuelle sur comment tu utilises ta vie. Et je vais, moi, lire dans la version second, mais s'il y a une version dans laquelle vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à le prendre maintenant, ou une langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise. Prenez le temps, moi je vais l'afficher dans la version Louis II. Si tout le monde l'a à peu près, je lis en ces termes. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. Jusque-là, la lecture de la parole est pour la petite demi-heure, si vous le voulez bien, qui va suivre. Là, on va essayer de commenter et tirer quelque chose pour nous, pour que notre regard sur notre vie ne dépende pas forcément de qu'est-ce que je fais, mais d'autres choses. Et dans ce passage, il nous est question de deux domaines de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Il y a le verset 1 et 2 qu'on va commenter dans un premier temps qui nous parle de la profession, du travail. Qu'est-ce que tu fais ? Et les versets 3 à 5 nous parleront plutôt de procréation, la relation avec la famille et l'enfance. Ok ? Vous êtes avec moi ? On va essayer de voir les versets 1 et 2 pour le moment qui nous parlent de profession. Et ils nous parlent de profession de deux manières. Déjà, en introduction, il nous est dit que c'est un cantique qui a été rédigé par Salomon. Salomon, vous êtes à peu près familier si vous venez à l'église. C'était un grand roi d'Israël, peut-être le plus grand en termes de réalisation. Et c'était un très grand bâtisseur. Il a construit un énorme palais pour son épouse. Il a construit le temple de l'Éternel. Et c'est lui qui a étendu jusqu'aux frontières les plus lointaines le pays d'Israël. Donc il faut bien le garder en tête. Et il faut se noter aussi qu'il avait plusieurs enfants, plusieurs fils et filles. Donc on parle de quelqu'un qui a de l'expérience ici parce qu'il va parler de deux choses tout à l'heure, des réalisations et des enfants. Ici, il va d'abord nous dire, il va nous parler d'un type de travailleur ici. Enfin, au fait, de deux types. Le premier, c'est celui, si en anglais on disait, il dit « faire toujours plus, more and more and more ». Ok ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève très tôt le matin. Il se couche très tard le soir et il se fatigue à la tâche. Il est question ici de ceux qui bâtissent la maison. Je suis architecte moi-même et effectivement, les ouvriers sur les chantiers arrivent très, très tôt. Moi, je suis un lève-tard. Donc, au moment où j'arrive, ils ont déjà bossé depuis 2-3 heures. Et c'est un métier éreintant et qui nécessite vraiment beaucoup d'efforts et parfois dans des conditions assez difficiles, soit dans le froid ou dans le chaud. Donc, s'il lisait ce psaume et qu'il voyait Salomon dire « Vous vous levez tôt le matin », ils se disent « Oui, 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 c'est mon métier ». Il nous est question aussi ici, non pas juste des personnes qui bâtissent, mais des personnes qui gardent la ville. Ça existe moins de nos jours. À l'époque, comme ce n'était pas vraiment la grande sécurité dans la ville, il y avait des gardes qui faisaient la veille, qui regardaient par-dessus les murailles s'il n'y avait pas des ennemis qui devaient arriver. Et s'il devait y en avoir, ils alerteraient tout le monde en disant « Attention, il y a des ennemis, réveillez-vous, on va se défendre ». Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais on voit bien qu'il y a des métiers qui s'y ressemblent un peu. Il y a des policiers, il y a des pompiers, il y a des personnes qui se couchent tard, qui veillent tard pour prendre soin. Donc ça, c'est les premiers types de travailleurs. Puis il y a un autre type de travailleur qui nous est dit ici, c'est quelqu'un qui dort. Ce n'est pas un travail très difficile, mais il nous est dit que ces personnes-là dorment. Ce qui se passe, c'est que dans ces deux travailleurs, le résultat est le même, c'est qu'ils reçoivent, au verset 2, le même pain. C'est comme si, moi je ne suis pas français de base, et à l'époque il fallait demander ce qu'on appelle un titre de séjour. Et alors il fallait le faire à la préfecture, vous savez où c'est au-dessus, hein, c'est pas sur Edmond-Rostand, c'est un peu plus haut il me semble. Et donc, tu viens pour récupérer un petit ticket pour pouvoir poser tes documents. Et il y a des gens qui viennent très très tôt, à partir de 4 heures du matin, ils sont là, sachant que ça ouvre à 8 heures. Donc ils se lèvent très tôt, et puis moi j'arrive comme une fleur, comme ça, à 9 heures. Certes, j'attends un peu plus longtemps, mais à la fin, on a tous reçu un titre de séjour, et dessus, ce n'est pas écrit « il s'est levé à 4 heures ». On a tous eu juste un même titre de séjour, et ce que Dieu dit nous aussi ici, c'est il y a d'un côté des personnes qui travaillent très durement, et qui reçoivent leur pain. Et il y a des personnes qui, même pendant leur sommeil, Dieu leur procure à manger. Et ces personnes sont appelées les bien-aimés de Dieu. Dieu prend soin de ses bien-aimés. Et ce n'est pas un appel à la paresse. Ce n'est pas un appel à se dire, bon, désormais, on peut tous rester, à ne plus rien faire de nos journées. Mais c'est d'abord un appel à la confiance, parce que Dieu donne autant à celui qui travaille beaucoup, comme à celui qui travaille juste ce qu'il faut, ou qui ne travaille même pas parce qu'il est au chômage, ou qu'il est à la retraite, ou qu'il est père ou mère au foyer. Et au fait, on se rend compte que cette réalité-là, elle est tout simplement fortement liée à quoi ressemblait la vie initialement. Si je nous remonte un peu vers la Genèse, on se rappelle que Dieu a créé le monde et puis les hommes ont décidé de se dire « c'est bien, mais on préfère fonctionner par nous-mêmes ». Et donc Dieu leur impose désormais une sanction qui s'énonce en ce terme. Il dit « le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine quand tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, en fait, la logique de la vie sur Terre, en réalité, c'est que le travail est supposé être pénible. Enfin, supposé à cause de la chute. Hein. Dieu ne l'avait pas prévu comme ça. Mais à cause de ce choix de l'homme de se dire « je veux fonctionner sans toi, Dieu », Dieu a dit « eh bien, ça sera un pain qui sera acquis dans la douleur ». Et quand on comprend quelle est cette normalité qui est supposée s'appliquer à tous, on comprend tout de suite l'énorme grâce de Dieu qui se dit que même certaines personnes, dans leur sommeil, quelqu'un s'occupe d'eux et leur procure du pain. C'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a rien de logique à avoir ce qu'on appelle des congés payés. Si on était dans la logique de la création, il faudrait qu'on travaille tous les jours pour recueillir à la fin de la journée du pain. On se dit, bon, je l'ai mérité, mais bon, c'est le prix à payer. Et là, on reçoit une grâce énorme où quelqu'un nous dit, tu peux partir 5 semaines où tu ne travailles pas et tu auras quand même du pain. C'est la même chose sur la retraite qui est une énorme grâce en réalité. Où on nous dit, tu as beaucoup travaillé, maintenant repose-toi, mais tu auras quand même du pain. Ce n'est pas logique, il n'y a aucune logique à cela. La logique veut que pour manger, il faut travailler. Donc déjà, je veux m'arrêter 2 secondes pour réaliser que ce psaume nous parle d'une énorme grâce de Dieu, particulièrement envers ses bien-aimés, mais en réalité, la parole nous dit aussi que c'est envers les bons et méchants, où Dieu permet que chacun mange quand même. Dans une société, on aurait dû travailler, suer pour pouvoir manger. Donc, on puisse déjà garder ça en tête, parce que normalement, la réalité de notre travail, c'est plutôt l'esclavage, l'exploitation, un rythme de travail extrêmement difficile, un travail qui ne paye pas assez, mais il y a cette confiance que pour les bien-aimés de Dieu particulièrement, même quand ils dorment et qu'ils se disent « je n'ai pas travaillé 12 heures aujourd'hui, je sais que Dieu va prendre soin de moi ». Donc ça, c'était le premier travail dont il est question, la profession. Mais rappelez-vous que les versets... Ah, je me suis trompé. C'est les versets 3 à 5 qu'on va voir désormais. On nous parle de la procréation. Et la procréation, vous savez que ça commence par la même chose. Une femme se met en travail avant de donner naissance. Donc, on nous parle ici aussi d'un travail en réalité. Et je vais le relire un peu. On nous dit que « voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alors dans le verset 3, vous savez, les psaumes fonctionnent souvent sur des parallèles, où il y a 2 phrases qui se répètent, mais ça veut dire à peu près les mêmes choses. Donc, les fils trouvent son écho dans le fruit des entrailles. Et puis, l'héritage correspond à la récompense. Et le mot fils en hébreu fait un peu assonance au mot bâtisseur. Ce n'est pas important, mais on sent que dans l'intention, en tout cas, du psalmiste, il parle d'un seul et même sujet, entre guillemets. C'est quelque chose qui est en travail. Il faut néanmoins aussi noter que le mot « héritage et récompense » ne nous parle pas d'une forme de félicitation pour certaines personnes. Il ne faudrait donc pas l'interpréter en disant que les personnes qui auraient des enfants sont récompensées par Dieu et des personnes qui n'ont pas eu d'enfants ou ne peuvent pas avoir d'enfants sont sanctionnés par Dieu. Non, ici, on est dans la même logique de le fruit d'un travail. C'est juste pour rester dans le champ lexical. D'accord ? Donc, il ne faut surtout pas retenir en disant « Seigneur, tu ne m'as pas permis d'avoir des enfants, mais je comprends mieux, c'est que tu m'as puni pour quelque chose. » Non, ici, il nous parle juste du fruit du travail, mais d'un autre travail, le fruit de la procréation. Et c'est pour ça que il nous est dit que l'homme est heureux. En fait, fondamentalement, si c'était quelque chose qu'il a fait, qu'il mérite, il n'y a pas de joie particulière. On dit, bon, je l'ai mérité. Mais quand il est heureux, c'est qu'il y a une forme de grâce, là, une fois de plus. Une forme de bénédiction que Dieu accorde pour les personnes qui ont des enfants. Et il nous est dit que, enfin, ceci étant dit, même si c'est une bénédiction de Dieu, ça n'enlève pas le fait que ne pas avoir d'enfant reste une douleur, reste une source de honte, et encore plus à l'époque d'Israël. Vous vous rappelez peut-être l'histoire, je ne l'ai pas l'affichée, mais c'est l'histoire de Anne et Elkana, qui étaient des gens, c'est les parents de Samuel dans la Bible. Et il nous est dit que Elkana avait deux épouses. L'une avait plusieurs enfants et l'autre, Anne, n'avait pas d'enfants. Et c'était une source de tristesse immense et intense pour elle chaque année lorsqu'elle montait à Silo pour présenter l'offrande à Dieu. Et lorsque Dieu, dans sa grâce, lui accorde soudainement un enfant, il y a tout un cantique au chapitre 2 qu'on ne va pas avoir le temps de lire, mais où elle dit « Le Seigneur a relevé ma tête. Ce qui faisait ma honte dans ma jeunesse, désormais, il n'y a plus de honte pour moi car j'ai un enfant. » Et c'est la même chose. Il nous est question aussi dans Genèse de Rachel. Vous savez, c'était l'épouse de Isaac qui n'avait pas d'enfant non plus. Et à un moment, Dieu lui accorde d'avoir un enfant. Et elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant « Dieu a enlevé ma honte ». Donc, dans ce psaume-là, quand on comprend à la fin du verset 5, où il nous est dit qu'ils ne seront pas honteux à la porte de la ville, il y a vraiment cette idée qui est là. Des fils sont une vraie bénédiction et c'est le fruit à la fois de la bonté de Dieu aussi. Parce que si on revient encore à la Genèse, on se rappelle que l'un des effets de la chute, c'est que la grossesse est devenue pénible. Le fait même, la procréation est devenue même une chose qui n'était pas si simple que ça. Genèse 3, 16, Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. » Donc, autant tout à l'heure dans la profession, l'homme était supposé souffrir de douleur pour avoir le fruit de son travail, autant dans la procréation, la femme est aussi supposée souffrir pour avoir le fruit de son travail. Et cette souffrance, oui, s'est exprimée au moment même de l'accouchement, mais ça se manifeste aussi parfois par des difficultés à avoir des enfants, par des fausses couches, des malformations de l'embryon. On sent que tout le process de procréation a aussi été brisé, a été corrompu. Donc là aussi, autant dans la profession, Dieu fait grâce en permettant qu'on ait au milieu de notre sommeil à manger. Autant dans la procréation, Dieu donne aussi la grâce, car il permet que des enfants naissent. Il permet même qu'il existe des solutions pour améliorer, rendre moins difficile l'accouchement. La péridurale est probablement une forme de grâce dans cette mesure-là. Et il y a plein de manières où Dieu dit « C'est supposé être difficile si je te laissais par toi-même, mais je voudrais quand même te faire grâce. » Et donc ici, dans la profession comme dans la procréation, Dieu fait grâce et il accorde la bénédiction d'avoir des enfants. Et donc, Dieu, en résumé, vient à notre secours dans deux domaines de travail. Notre profession, notre procréation et s'il fallait prendre du recul sur ce psaume et dire « qu'est-ce qu'il dit ?» C'est Dieu qui dit « mais sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, dans tous les domaines de ta vie, tu ne peux rien faire. » Le problème, pourtant, si on y réfléchit bien, c'est qu'il y a plein de bâtiments qui sont construits par des gens qui ne craignent pas du tout Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a plein de personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ne viennent pas à l'église et qui ont pourtant des enfants. Donc il y a quelque chose d'illogique dans ce psaume, on se dit, bon, Dieu, c'est peut-être poétique, juste quand tu dis que, bon, si celui qui construit ne construit pas avec Dieu, ben, ça ne sera pas construit, c'est en vain. Et fondamentalement, vous aurez raison. Effectivement, je pense qu'il faut accepter qu'il y a une grâce commune de Dieu qui permet que même les personnes les plus méchantes et les plus éloignées de lui récoltent un fruit de leur travail. C'est Dieu dit, je suis bon envers toi, même si tu es méchant envers moi. Même si tu ignores ma personne, je t'accorde cette grâce. Mais ça veut dire aussi que ce psaume, si on le prend tel qu'il est écrit, et je crois qu'il est vrai, c'est qu'il a une leçon encore plus profonde pour nous dans ces deux domaines en particulier. Et au fait, on ne peut vraiment les comprendre que si on réalise que c'était quoi l'idée de Dieu au départ quand il a donné à l'homme de travailler et de se multiplier. Et pour ça, on doit encore revenir à un dernier verset dans Genèse 1, les versets 26 à 28, où Dieu nous dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » C'est le mandat de la procréation. Et puis, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Cette deuxième partie, c'est plutôt la profession. Et ces deux choses-là sont en réalité juste un moyen pour atteindre un seul et même but qui était énoncé au démarrage. C'est que Dieu créa l'homme à son image. Et verset 26, que je n'ai pas affiché, c'est Dieu qui se propose dans son comité trinitaire de se dire « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. etc. » Donc, ces deux choses-là ne sont que des moyens, mais l'objectif initial et final de Dieu, c'est que nous soyons des images de Dieu. Et c'est là que les personnes qui ne craignent pas Dieu et qui ignorent Dieu ne sont pas capables d'atteindre cet objectif-ci. Si l'homme est supposé être l'image de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu la chose principale qu'il faut représenter. L'homme est comme un miroir, on va dire. Et un miroir ne fait que refléter ce qui est en face en réalité. Mais l'homme, au démarrage, a dit « Non, non, je veux évacuer de l'équation Dieu, si bien que le miroir montrait du vide. » Le miroir était cassé, c'est comme vous faites des ombres chinoises et qu'il n'y a plus de lumière derrière. Vous voyez ? On ne voit plus rien. Et c'est exactement ce que l'homme a fait lorsqu'il a décidé de fonctionner indépendamment de Dieu. Il a dit « Mais Dieu, je ne veux pas de toi. » Et Dieu lui dit « Oui, tu vas continuer alors à travailler, à avoir des enfants, mais tu n'atteindras pas l'objectif initial. » qui était d'être mon image. Donc quand Dieu, dans ce psaume, dit « Tu ne peux rien faire sans moi », il est en train de renvoyer à la Genèse où il nous dit « Si tu veux atteindre les objectifs pour lesquels tu as été créé, alors tu as besoin de moi. » C'est pour ça qu'il nous est parlé de vanité. Vous savez, au verset 1 et 2, il dit que c'est en vain que tu construis. Oui, ta maison sera construite. Elle sera peut-être merveilleuse, elle durera longtemps, mais à l'échelle de l'éternité, elle ne vaudra rien. Oui, peut-être que tu auras des enfants et qu'à la porte de la ville, tu ne seras pas confus, mais quand ça sera devant le tribunal de Dieu et que ces enfants ne sont pas en Jésus, eh bien, tu seras confus parce qu'ils iront à la perdition éternelle. Et c'est bien de se rappeler que c'est Salomon qui a écrit ça. Et quand il nous parle de vanité, 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 on ne peut penser qu'à l'Ecclésiaste. On y dit que tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Et après avoir dit ça, à la fin de l'Ecclésiaste, il nous donne le conseil. La conclusion, il dit, c'est écoutons la conclusion de ce discours, crains Dieu et respecte ses commandements car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Donc Dieu, quand il dit « tout est vain sans moi », c'est qu'il se met à l'échelle de l'éternité en réalité. Sur 70 ans, effectivement, tu peux construire des maisons, tu peux garder une ville, tu peux avoir des enfants, mais c'est à l'échelle du jugement final que cela va importer. Alors comment être sûr que nos œuvres ici-bas ne soient pas vains et tournent à notre confusion à la fin. Comment être certain qu'à la fin, Dieu ne réprouve pas ce que tu as fait comme un mauvais serviteur? Comment être certain que nous ayons accompli la mission que Dieu nous avait donnée? Par nous-mêmes, cela est impossible. Et j'aime particulièrement ce psaume parce qu'il est question de deux choses dans ce psaume où la personne qui les reçoit ne fait rien. La personne dort, elle reçoit du pain. Deux, il y a des personnes qui ne font rien et qui reçoivent en héritage une descendance. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des gens quelque part qui n'ont rien fait et qui reçoivent quand même un bénéfice. Et c'est là même le principe de la grâce. Dieu dit, tu n'as rien fait, j'ai tout fait et tu reçois le fruit de ma grâce. C'est donc en Jésus, lorsque Dieu s'est incarné parmi nous et qu'il a parfaitement accompli la volonté de Dieu par sa vie et par sa mort, c'est grâce à cela que nous pouvons devenir les images de Dieu telles que nous devons l'être. Jean nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus ne dit pas quelque chose de différent. Lorsqu'il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus, notre profession ou notre relation à la procréation n'ont pas d'utilité à l'échelle de l'éternité. Et c'est parce que nous sommes, en tout cas, si nous avons fait ce choix de croire en Jésus, unis à lui, que nous pouvons être appelés bien-aimés de Dieu. Ça veut dire que concrètement, dans notre profession, si nous savons que nous sommes enfants de Dieu, unis à Jésus, on peut dormir sur nos deux oreilles. Pas tant pour se dire « Ah oui, Dieu prend soin de moi, donc ça va arriver tout seul. » Non, c'est que c'est la finalité qui appartient à Dieu. Dieu va prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, donc ça donne une grande liberté, je trouve, sur déjà le choix de ton travail. Tu ne vas pas choisir ton travail en fonction de « Est-ce qu'il va me ramener assez d'argent pour rembourser mon prêt, prendre soin de mes enfants, etc. » Tu te dis « Non, je vais faire mon travail pour être une image de Dieu là dans mon travail. » Et peut-être que ça ne me ramènera que le SMIC. Peut-être que ça ne sera pas très grand, ma retraite, mais ça, ce n'est pas mon affaire dans tous les cas. Dieu prend soin de moi. Mon objectif est d'être une image de Dieu au milieu de ce travail. Et c'est ce que dit Jésus d'ailleurs. Notre préoccupation dans Matthieu 6, verset 33, ce n'est pas tant de qu'est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va s'habiller, mais c'est le règne de Dieu. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire qu'au milieu de notre travail, l'idée n'est pas tant de se dire « Ah ouais, comment je vais évangéliser un tel ou ça ?» Non, c'est réfléchir à comment est-ce que dans ce travail précis, tu peux être l'image de Dieu. Comment est-ce que lorsque le boulanger prépare son pain, les gens se disent « Ah ouais, on dirait Dieu qui prépare du pain. » Ou quand l'architecte travaille et dit « Ah ouais, on dirait Dieu qui est en train de concevoir quelque chose. » Comment est-ce que par ce que tu fais, la qualité de ce que tu fais, mais aussi l'état de cœur de comment tu le fais, tu peux être une image de Dieu. Parce que tu es un bien-aimé de Dieu et parce que la finalité ne t'appartient pas. Dieu s'en occupe. Toi, c'est le moyen. Si cela est vrai dans la procréation aussi, alors avec Dieu, nous avons l'assurance de ne pas être confus à la fin. Certains pourraient peut-être être frustrés de ne pas être parents, grands-parents, mari, je ne sais pas quelle situation familiale est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous aurez aimé. Ce qui va importer à la fin pour Dieu, ce n'est pas de se dire « Ah oui, c'est bien, tu as eu 7 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants. » Ce qui va importer pour Dieu, c'est combien sont unis à Jésus et combien as-tu amené d'enfants à devenir image de Dieu. Et pour ceux qui n'auraient pas d'enfants, ça rassure beaucoup aussi. L'objectif, ce n'est pas tant de se dire « Ah oui, tu as eu des enfants ». Ce que Dieu voulait initialement, c'est qu'on multiplie les images de Dieu. Si bien que c'est un appel, je pense aussi, à se dire « Ok, peut-être que mes enfants sont grands et que je n'ai plus cette tâche-là. peut-être que je n'ai pas eu d'enfant. Dans tous les cas, quel que soit ton stade d'avancement, tu as toujours le moyen de faire naître des images de Dieu, des enfants de Dieu. Et cette naissance ne se fait pas plus par la procréation, mais par la proclamation. C'est-à-dire que quel que soit ton statut, tu es capable aujourd'hui de générer et de multiplier les enfants de Dieu. Et c'est ce que dit Jésus, Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, nous sommes capables de multiplier les images de Dieu, et quand viendra le jugement de la fin, quand on sera à la porte et que l'ennemi sera là en essayant de te dire « Ah, regarde, tu n'as pas eu d'enfant », tu pourras lui dire « Non, regarde, j'ai contribué à la naissance de tel enfant dans la foi. » Et je trouve que ça enlève beaucoup de pression sur quel est notre statut ou quel est désormais notre statut, parce que nos statuts changent. On peut avoir une phase où on rentre dans, on va dire, dans les moules qui sont attendus de nous, marier, avoir des enfants, mais après, on est à la retraite, peut-être qu'on est divorcé, peut-être qu'on est veuf. Et Dieu dit non, ta vie, elle n'est pas finie. Ta vie, elle peut continuer, à la fois dans ta profession et à la fois dans la proclamation. Donc j'aimerais juste conclure avec 4 R pour nous aider à nous rappeler juste. 1 R, soyons reconnaissants parce qu'il n'y a rien de logique à avoir des enfants ou avoir à manger dans un monde qui est déchu. Dieu prend soin de nous, Dieu prend soin des personnes proches de nous aussi, même qui ne suivent pas Dieu, mais qui ont besoin de ces choses. Soyons reconnaissants. 2, reposons-nous. Dormir, c'est un acte de foi. Si jamais vous avez beaucoup de boulot, mais que vous vous dites « Ok, je vais me reposer à présent, j'ai fini. » Ou alors tu prends un week-end ou tu prends des vacances, fais-le. C'est un acte de foi parce que c'est de Dieu que ça dépend les choses. Ce n'est pas un appel à être irresponsable par rapport à des tâches qui nous sont confiées dans un certain délai, mais sachant accepter de se dire « Non, Dieu est en contrôle, je me repose. » 3, la requête pour parler de la réalité que Dieu dit que « Sans moi, tu ne peux rien faire. » C'est-à-dire qu'il faut que nous impliquions Dieu dans chacune de nos tâches. Il faut que nous appelions à Dieu pour que la tâche que nous faisions porte du fruit, que ce soit une tâche séculière, on va dire, mais bien sûr une tâche aussi spirituelle. Et enfin, la représentation qui est un appel à atteindre l'image initiale que Dieu nous a confiée, c'est celle d'être son image et ses fils et ses représentants ici-bas. Et que cela puisse animer notre vie. Alors, j'avais posé la question au début, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dieu nous appelle à être son image, là où il nous place dans chacune de nos vies. Et je vais prier pour conclure. Père Saint, je te rends gloire car tu es un Dieu plein de grâce. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à des personnes qui se sont rebellées contre toi au démarrage ? Et qui devaient plutôt souffrir pour recueillir le fruit de la terre ou de leurs entrailles. Et voilà que dans ta grâce commune, tu permets que nous mangions, que nous buvions, que nous ayons du repos et que nous puissions nous multiplier. Merci Père, et merci car il y a une grâce encore plus particulière à ceux qui décident de placer leur foi en Jésus, car alors, à l'échelle de l'éternité, Père, ils ont la capacité d'être des représentants de ta personne dans chaque chose qu'ils font. Et ces choses ne tourneront pas à leur confusion à la fin, car tu diras en Jésus à chacune des œuvres que nous avons faites, « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Et cela, c'est grâce à Jésus qui a déjà tout accompli. Merci infiniment, Père, de cette grâce particulière et que par ton esprit désormais, qui crie en nous « Abba Père », il nous donne aussi la capacité d'agir comme des enfants de Dieu, les fruits de tes entrailles, Père, et que des gens soient menés à se convertir à cause de ce témoignage de nos œuvres et de nos paroles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai pu m'adresser à toi. Amen.